Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter un sujet un peu spécial. Donc, je vais l'écouter avec vous, ce que je viens de faire. C'est très compliqué pour moi, mais bon, ça fait rien. Pour essayer de comprendre comment fonctionne, parce que chaque génération, elle aborde des nouveaux bonheurs et aussi des nouveaux dangers. Et après, la manière qu'on a de les aborder, alors ça doit être avec l'intelligence, avec la chokhma et avec d'essayer d'avoir le regard de la Torah sur la chose qui existe, comme elle existe la mode, comme elle existe l'influence extérieure, comme elle existe maintenant les nouvelles technologies, Internet, les téléphones, toutes ces choses-là qui sont tellement, tellement loin de nous et tellement proches de nous que même les grands chachamim aujourd'hui, ils ont très peur et ils disent que c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée depuis la Shoah, c'est Internet. Et d'un autre côté, que c'est une chose qu'on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que c'est vraiment un outil et que même les gouvernements, ils ont mis en place, ils ont mis des milliards et des milliards pour que ça soit diffusé partout et que ça rentre partout, comme si le Yetzer Hara, il est devenu maintenant actionnaire de chaque pays pour diffuser un outil et que bien sûr, comme tous les mensonges, ils commencent par une vérité, alors ça rend beaucoup de services. On peut pratiquement plus prendre un billet d'avion ou de train sans Internet. On peut pas. On a besoin pour sa banque. Après, bientôt, on va payer. On va tout faire avec. On a besoin des renseignements. On a toutes les bibliothèques du monde qui sont à disposition. Et malheureusement, aussi, on a des accès à des endroits et à des systèmes et à des pensées qui sont tellement difficiles, tellement durs, que des endroits où jamais on aurait imaginé d'aller, Chas v'shalom lo aleinu simsilenu, en un clic, on est dedans. Oui. Des choses, des images qu'on n'aurait jamais fait rentrer dans notre maison, elles rentrent. Alors comment on trouve cet équilibre entre quelque chose qui est utile, et même les rabbanim, ils sont très embêtés. Il y a beaucoup de gens, même religieux, qui travaillent avec Internet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment le limiter, comment l'utiliser et comment ne pas le subir. C'est un très gros problème. Surtout qu'on sait que si quelqu'un il va dire oui, mais quand même c'est une question de parnassa et tout, il faut savoir que il y a les mitzvot assez, mitzvot lota assez. Mitzvot assez dans les mitzvot positives, c'est quand on doit faire quelque chose. Mitzvot lota assez, c'est les interdits de la Torah. Maintenant, la halakha, c'est que dans les mitzvot positives, on doit dépenser jusqu'à un cinquième de sa fortune. Si quelqu'un doit acheter des téfilines ou s'il doit acheter un loulav, on peut dépenser jusqu'à un cinquième. Mais dans les interdits, il n'y a pas de limite. Pour éviter les interdits, il n'y a pas de limite. Oui, si quelqu'un dit, moi je suis obligé de voler pour la parnassa, il dit non, c'est pas grave, tu vas mendier, mais tu vas pas voler. Quelqu'un dit, je mange taref, je suis obligé de manger taref parce qu'il faut bien manger. On dit non, pour ne pas manger taref, même si le cachet coûtait 3000 euros le kilo, tu seras obligé d'acheter parce qu'il n'y a pas de limite dans l'interdit. Voilà, après, si tu veux, tu manges des pommes de terre. Oui, mais tu peux pas dire, je vais manger taref parce que c'est cher. Si tu peux pas faire ça. Parce que dans l'interdit, il n'y a pas de limite. Ça veut dire, jamais la matérialité, elle peut être un frein devant la spiritualité négative. Maintenant, si c'est ça. Alors, il y a une bracha, quand quelqu'un se marie, on lui fait une bracha. On dit, au chatan et kalash, iskuliv not bait neeman be Israël. Qu'ils aient le mérite de construire une maison, un bait neeman. Un bait neeman, ça veut dire une maison qui est fidèle. Bait neeman, ça veut dire c'est une maison qui est fidèle à Hachem. Mais c'est aussi une maison qui est néemenet. Ça veut dire que quand tu es là-bas, tu es tranquille. Tu es tranquille, oui. Des fois, les gens, ils te disent, bon, Rabbi Chetri, vous savez, on vous reçoit à la maison et tout ça. Alors, je dis, mais est-ce que je peux manger si... Alors, s'ils te disent, vous savez, Rav, je m'excuse, mais je ne pense pas que vous pouvez manger. Alors, je dis, si je ne peux pas manger, comment vous mangez-vous? Si ce n'est pas kasher pour moi, comment c'est kasher pour toi? Il y a un shulchan aruch pour les rabbanim, mais un shulchan aruch pour tout le monde. Ce n'est pas le même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une référence. Il dit, c'est pareil. Quand quelqu'un il doit construire un bait neeman, il doit construire une maison. Maintenant, c'est quoi bait? Bait, ce n'est pas seulement une maison. Baït, c'est un bet qui boule, c'est un réceptacle. Un baït néman, c'est-à-dire c'est un endroit qui peut recevoir la néhémanout. Alors c'est quoi l'idée? Alors comme ça, il avait expliqué à un très grand rave, il avait dit « Tachlit achayim ve tachlit kol maase ou livnot bet ki boule les siyata d'Ishmaïa. » C'est quoi le but de la vie? Et le but de chaque action, c'est de créer un réceptacle pour l'aide divine. Ça veut dire que ce qu'un homme doit faire dans sa vie en vérité, nous on croit qu'on doit travailler, qu'on doit faire des enfants, qu'on doit étudier la Torah. Mais ça c'est l'extérieur des choses. Mais l'intérieur des choses c'est quoi? C'est que chaque acte et chaque journée et chaque projet, il doit être un endroit pour recevoir Hachem. C'est que ta maison c'est un endroit pour recevoir Hachem. Ton couple c'est un endroit pour recevoir Hachem. S'il y a de la bagarre tout le temps entre toi et ta femme, ça veut dire que tu ne peux pas recevoir Hachem. Ton business, c'est un endroit où tu peux recevoir Hachem. Oui. Ta parole, c'est un endroit où tu peux recevoir Hachem. En vérité, tout ce qu'on fait, c'est seulement le bête qui boule de la Seata Dishmaya. C'est-à-dire, même on réfléchit, on se casse la tête, on essaie de trouver une solution avec le business, on essaie de trouver une solution avec un mariage, on essaie de trouver une solution dans l'éducation. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que nous, maintenant, on a un problème et on trouve la solution. Non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée la place pour qu'Hachem, il nous aide. C'est ça qu'on doit faire. Toujours le Chazonish, il dit qu'en vérité, un homme, dans la vie d'un homme, dans l'action d'un homme, Hachem fait 90%. Dans tout ce que tu fais, Hachem fait 90%. Et l'homme, il fait 10%. Ouais, parce que toi, tu ouvres le business, mais pourquoi le client, il achète chez toi? Pourquoi il n'achète pas ailleurs? C'est le bon Dieu qui fait ça. Ouais. Un enfant, tu lui parles en moyenne 2 minutes et demie par jour. Le matin, tu lui dis bonne journée, mon fils. Ouais. Et le soir, ça a été, comment ça se passe? Fais tes devoirs, allez, bonne nuit. Ouais. Ah, des fois, tu leur parles un peu plus, enfin, un peu moins. Alors, comment c'est possible que la majorité des enfants sont normaux alors qu'on leur parle 2 minutes et demie par jour? Ouais, premièrement, ça c'est pour ce que tu vois, mais pour ce que tu ne vois pas, qui côtoie dans la rue, qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui les drague dans le train, avec quel voyou ils ont rencontré, qu'est-ce que l'autre il lui a proposé, quel fou il l'a influencé, quel professeur il l'a cassé, tu vois rien. Donc puisque tu ne vois rien, en vérité les 90% c'est pas toi. Parce que qui c'est qui va lui écarter les trucs, qui c'est qui va faire que le copain qui devait l'influencer, il a été viré de l'école, et que le professeur qui était fou et qui voulait le détruire, il est tombé en dépression, il est parti, et celui-là, il a divorcé, il a été muté en Hongrie. Qui c'est qui a fait le ménage? C'est le bon Dieu. Donc Hachem, en vérité, fait 90%. Ah, tu vas dire, s'il fait 90%, alors moi, j'ai rien à faire. C'est quoi 10%? C'est rien. Non, il dit le Chazon Ish, Hachem, il fait 90%, mais toi, tes 10%, tu dois les faire à 100%. Tes 10%, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire, si tu prends l'absolu, si tu prends toute la réalité de l'enfant, si tu prends toute la réalité de ton couple, si tu prends toute la réalité de ton business, en vérité, tu n'as que 10%. C'est vrai. Mais ces 10%, tu dois les faire à 100%. Pourquoi? Parce que c'est quoi ces 10%? Ouais, c'est comme quelqu'un, il a créé un outil informatique qui va ramener 100 milliards. Mais le gars, il n'a pas amené les 100 milliards. Il a créé l'outil informatique. Celui-là, il a installé le tuyau. Il est plombier, il installe un tuyau. Mais ce n'est pas lui qui met l'eau. Après, pendant 100 ans, il y a de l'eau qui va couler dans le tuyau. Mais lui, il ne met pas l'eau, lui, il met le tuyau. Eh bien, nous, ce qu'on fabrique, c'est le tuyau. Ça va? Entre toi et ta femme, tu fabriques un tuyau. Ça s'appelle de l'amour, ça s'appelle de la finesse, ça s'appelle de la douceur, ça s'appelle de la communication. Ça, c'est un tuyau. Et dans ce tuyau, Hachem, il envoie le shalom. Ouais. C'est pareil. Entre toi et l'enfant, tu crées un tuyau. Du respect, de l'éducation, des limites. Des obligations et de la tendresse et de l'amour, c'est un tuyau. Et dans ce tuyau, il tombe le shefa de chinour, c'est-à-dire l'influence de chinour dans chaque chose. Tu crées une yeshiva, tu fais rien, tu t'achètes des bancs, t'achètes des chaises et tu donnes cours. Il va sortir des tzadikim ou des voyous? Tu peux pas savoir. Enfin, c'est une yeshiva. Elle a dépensé cette année 130 000 dollars. Il n'y a que des voyous, c'est faire. Ouais, et l'autre, il a une yeshiva pourrie avec des caravanes, et les gars, ils se lèvent à 7h du matin jusqu'à 1h30 du matin avec le livre et avec le stender cassé. Comment tu peux savoir? Donc quand tu crées un tuyau, ce tuyau-là, c'est les 10%. Mais ces 10%-là, il faut que ce soit à 100% à l'intérieur. Il dit, c'est exactement pareil. Il dit, ça veut dire quoi? C'est que si notre travail à nous, c'est de créer un bête qui boule, un réceptacle de la Seata Dishmaya, c'est-à-dire un réceptacle de l'intervention divine, alors il y a des règles, il y a des critères. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Oui, on ne peut pas faire une yeshiva qui en journée est yeshiva et la nuit est boîte de nuit. Comme ça tu dis, tous les frais de la yeshiva sont pris en charge par la boîte de nuit. Après, comme on a eu beaucoup plus d'élèves, donc on n'a pas assez de budget, donc on a rajouté aussi des striptease. Maintenant, quand tu écoutes ça, tu dis, mais il est fou celui-là. Quelqu'un, il est fou, d'accord? Eh bien, c'est pareil, quelqu'un il dit, moi, j'ai pas envie de payer un babysit, alors je mets les enfants dans la télé. Donc, pour gagner les 30 euros de la babysit, tu mets les enfants devant la télé. Mais dans la télé, ils voient le striptease. Donc, pour gagner 30 euros, tu mets le striptease. Donc, ça vous choque dans la yeshiva, mais à la maison, vous trouvez ça normal. Vous comprenez cette logique ou non? Parce que dans la journée, c'est une yeshiva. Mais tu sais ce qui se passe la nuit, toi? Dans la journée, Internet, tu travailles avec, mais la nuit, qu'est-ce que tu fais avec la nuit avec Internet? Du striptease. Donc c'est exactement ça. Tu fais une yeshiva avec le striptease. Exactement. Dis maintenant, quelqu'un, il doit bien réfléchir que malheureusement, quand il va venir la volonté divine de participer, elle va venir l'influence divine, il faut qu'elle trouve un endroit pour aller. On ne peut pas recevoir un tzaddik dans une porcherie. Alors comment on va recevoir la Shekhina? Comment on va recevoir la présence divine? Et après on veut l'aide d'Hachem et on veut qu'il soit avec nous, on veut qu'il nous protège. Tu vois bien que quand toi tu as besoin d'une vraie bracha et tu vas avoir un vrai tzaddik, tu vois dans quoi il vit, tu vois comment il est, tu vois qu'est-ce qui est important pour lui. Ouais, alors pour la bracha il est bon, mais pour le reste, non, laisse tomber, il est fou, il exagère, il est orthodoxe. Mais pourquoi? Si vraiment c'est ça le émet, alors qu'est-ce que tu fais toi? Il dit non, ça c'est pour prendre des brachot. Mais pour la vie personnelle, on peut pas vivre comme ça. Il faut être des gens normaux. Oui. Alors tu vas le voir que quand tu as des problèmes. Mais peut-être que tu n'aurais pas besoin d'aller le voir si tu n'avais pas de problème. Ça serait encore plus simple. Et cette logique-là, c'est que quand Hachem a promis, c'est pour ça qu'on fait toujours cette bracha à quelqu'un chez Tishrei, Shrinato, Bemasi Yedichem. Sa Shekhina, sa présence, la présence divine, elle réside, mais Bemasi Yedichem, dans ce que vous faites. Parce que c'est ça le principal de la vie. Ouais. Le principal, c'est pas gagner beaucoup d'argent, ou faire beaucoup d'enfants, ou faire des beaux voyages. C'est est-ce qu'il y aura la Shekhina dans tes actes, il n'y aura pas. S'il n'y a pas la Shekhina, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Si tu n'as pas été un vecteur de la présence divine, alors à quoi ça a servi? Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, on va tous mourir. C'est comme si quelqu'un, il t'a planté de 100 000 euros. Il t'a planté de 100 000 euros. Et tu lui en veux, il m'a pris 100 000. Je vais le tuer, je vais le maudire, je vais le truquer, je vais le maudire. Et après, le gars, il vieillit, c'est la fin de sa vie. Et il tombe à l'hôpital à côté du gars qui lui a planté les 100 000 euros. Alors, il est là à côté. Lui et les deux, ils ont le même cancer. Alors, allez, ils sont en train de mourir comme ça. Il dit, c'est toi, David? Oui, c'est moi. Tu te rappelles que tu m'as planté de 100 000? Oui. Alors? Tu sais combien de fois je t'ai maudit? Je sais, voilà, j'ai la même maladie que toi. Alors? Il dit, mais juste une chose. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ça me fait de la peine que tu t'es angoissé pendant 40 ans pour ces 100 000. Ça me fait de la peine. Pourquoi? Mais parce que c'est 100 000. Si tu les avais perdus dans un business, tu aurais dit c'est le business. Mais si quelqu'un te les a pris, tu dis il faut qu'il meure. Mais tous les neurones que tu as gaspillés dans cette haine et dans cette rancune, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas.
C'est-à-dire qu'il ne doit pas...
Non, au niveau légal, au niveau de la loi, tu dois faire les démarches. Mais dans ton cœur à toi, tu oublies ça, tu dis Gamze Yavor, Gamze Letova, Kol David Rachamana Leta. Tu te rends pas malade. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Voilà, il est parti, tu dis comme ça. Ça sert à rien. On a déjà expliqué dans le cours sur la rancune et la vengeance que quand il t'arrive quelque chose de mal avec quelqu'un, oui, il faut savoir que 99%, ben, c'est le bon Dieu qui te l'envoie parce que tu le mérites. Et 1%, il y a un agent applicateur qui s'appelle le gars. C'est que quand... qui s'appelle la personne. C'est-à-dire que Hachem, il a fait un appel d'offres, il a dit, il nous faut un rachat pour voler ce gars-là, le gars a levé la main. Comme il dit, il nous faut un tzaddik pour aller sauver le fils de celui-là, il a levé la main. Maintenant, quand un, il te sauve ton fils, que tu dis, Baruch Hachem, ouais, et quand un, il te plante de 100 000, tu dis, maudit soit-il. Mais je comprends pas, c'est le bon Dieu, hein, c'est la même chose. Hein. C'est le bon Dieu qui t'a envoyé. Vous me suivez ou non? Maintenant, le bon Dieu, il n'a pas choisi qui c'est qui va le faire. Parce que ça, c'est une proposition que le Yetzara, il fait à chacun, et chacun, il relève le défi. Ouais. Mais le fait que ça t'arrive. Donc, les 99% de haine que tu as mis sur lui, en vérité, ils étaient seulement de ta culpabilité à toi. Parce que pourquoi ça t'arrive? Donc, tu avais 99% de Rama qui étaient détournés. Pour rien. Un sacrifice zéro. Ouais. Bah, c'est exactement pareil. Ça veut dire que chaque chose que tu vis, si toi, tu es en train de chercher la présence divine, en vérité, ça relativise complètement l'importance des choses et ça relativise aussi la gravité des choses. Oui, si tu as la Shekhina à la maison, parce que tu as la paix, parce que tu as l'amour, parce que tu as l'équilibre, mais qu'est-ce que tu t'en fiches qu'aujourd'hui on mange mieux, on mange moins? Bon, là tu as mangé un 1 200 euros, ouais, et là tu as bu un coca, d'accord? Maintenant ton fils, il est ingénieur, mais il prend des antidépresseurs. L'autre, il est plombier, mais il est heureux. Tu dis, oui, mais dommage, il n'est pas ingénieur. Mais toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, comment tu vas faire pour relativiser? Il faut que tu aies une référence. Maintenant, la Torah, elle a donné un secret de folie. Elle a dit, la meilleure référence que tu prends, c'est la présence divine. Parce que devant la présence divine, alors les goyim, ils disent, si tu as le bonheur, si tu as la santé, mais nous, on dit, ça suffit pas, ça. Il faut que tu aies le bonheur et la santé, mais il faut que tu aies la présence divine. Et bizarrement, quand tu as la présence divine, même si, chas v'shalom, tu n'as pas le bonheur et la santé, tu es bien. Parce que les tzadikim qui prennent sur eux les caparotes pour tout Am Israël, je peux te dire que toute la journée ils souffrent, toute la journée ils souffrent, ouais, et ils sont bien. Parce que ça c'est la référence maximum. Ils ont pris la référence maximum. Maintenant si tu réfléchis qu'on est là pour ça, mais il faut avoir un projet. Si tu n'as pas le projet, si tu comptes sur la télévision ou sur la politique pour t'expliquer c'est quoi le projet, c'est normal. Mais il faut quand même pas oublier qu'ils sont des millions et des millions à prendre des antidépresseurs. Ça, c'est les pays riches. Les pays pauvres, n'en parlons même pas. Ouais, ils se saoulent avec en fumant des bouteilles en plastique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de référence. Il dit ça, cette force-là, cette force de la référence, c'était ça la peur qu'il avait à Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que quand, vous savez tous, vous avez lu dans le Chumash, que quand Hachem, il a promis à Avraham Avinu qu'il allait donner à sa descendance la terre d'Israël et qu'il allait avoir une descendance comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel, Avraham Avinu, il a fait une faute très grave. Il a dit Bema Eda. Oui, Bema Eda, comment je vais savoir? Alors on dit que pour ça, qu'il a manqué de confiance, ses descendants, ils sont descendus 400 ans en esclavage, en Égypte. D'accord? Si vous allez dire, mais pourquoi les enfants, ils doivent payer pour les fautes? C'est pas qu'ils ont payé. C'est que ce manque de Emouna, il s'est inscrit dans l'essence d'Abraham. Et comme il s'est inscrit dans son essence, il s'est inscrit dans sa semence. Donc sa semence, il faut qu'elle récupère les manques de son ancêtre. Donc il faut 400 ans d'esclavage en Égypte pour retrouver le niveau de Emouna que Avraham il avait avant de douter. Ça va? Oui, non? Maintenant, il y a une autre explication. C'est quoi Bemareda? Que le doute d'Avraham Avinu, c'est pas que lui il a douté. Avraham il connaissait son niveau dans la Torah, le Chumash. Ouais. Juste après que Hachem est venu en rêve et il lui a dit que je te donnerai une grande descendance, il s'est réveillé, il a dit Bemareda, comment je vais savoir? Et on dit Hachem, il a dit, puisque tu n'as pas cru, alors ta descendance, elle sera en esclavage. Maintenant, il y a une autre explication. Écoutez, cette explication, elle est incroyable. C'est que c'est pas qu'Avraham Avinu, il a douté de lui, ou il a douté de Dieu. C'est ce qu'il croit, il a dit. Il a dit Bemareda, ça veut dire qui me dit, écoutez bien, qui me dit que ma descendance, elle sera à la hauteur pour recevoir cette bracha? C'est-à-dire qu'il a dit, moi je peux m'engager pour moi. Moi je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai sacrifié. Mais est-ce que je peux? Bemareda, comment je vais savoir que les Dorot d'après, les générations d'après, elles pourront assumer ça? D'accord? C'est comme quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Peut-être cet argent pour lui c'était une bracha, parce qu'il s'est battu pour l'avoir. Mais l'autre qui l'a reçu gratuitement, c'est une klala. Parce qu'il va le gaspiller. Et c'est le même argent. Donc il a dit, il faut prier que les gens ils soient à la hauteur de profiter de ce dont toi tu as profité. Comme des gens qui sont très très intelligents. Ouais, c'est dangereux des fois parce qu'ils ont, s'ils ont des enfants moins intelligents, les enfants ils vont souffrir. Donc il faut qu'ils soient en même temps très intelligents, mais en même temps qu'ils créent un espace pour que l'enfant il puisse s'épanouir. Parce que si l'enfant il est écrasé par l'intelligence de ses parents, eh bien finalement, ça va faire un pauvre type. Donc, Bema Eda, ça veut dire, comment je vais savoir que mes générations, ils seront à la hauteur pour recevoir cette bracha. Parce que même si quelqu'un, il mérite une bracha, mais s'il n'a pas le réceptacle de la bracha, c'est comme si quelqu'un, il a une très grande mémoire, un enfant qui a une très grande mémoire, mais qui n'a pas confiance en lui. Alors, il arrive devant la feuille, il connaît tout le cours, mais il n'arrive pas à écrire. Pourquoi? Parce qu'il a les capacités, mais il n'a pas les outils. Vous me suivez ou? Oui. C'est que quelqu'un, il a une idée de génie de business, mais il arrive trop tôt. Alors il lance ça, et personne ne le suit, mais vous êtes fou, mais de quoi vous parlez? Et le gars, il meurt de chagrin, et 10 ans après, il sort le business, et le gars, il explose. C'est le même business, mais il est arrivé trop tôt. Donc il a trop anticipé. Vous voyez cette logique ou non? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es la bonne personne au bon moment, quand tu es la bonne personne au bon endroit, mais ça, cette rencontre entre la bonne personne et le bon endroit, ça c'est Siyata Dishmaya, ça c'est la divine. Maintenant, que ça soit dans un très gros business, parce que tu as une idée de génie au bon moment, tu t'as su t'entourer de la bonne personne au bon moment, ou même au niveau microscopique, que tu as dit le bon mot à l'enfant au moment où il fallait, que toi tu as eu l'intelligence de voir l'amour de tes parents au lieu de voir le stress de tes parents. Mais c'est une siyata d'ishmaïa. Cette rencontre entre toi et la prise de conscience, mais c'est un tuyau que Dieu il a créé. Parce qu'il y en a, 30 ans après, ils ouvrent les yeux. 30 ans de nerfs et de thérapie et de trucs. Et à la fin, ils disent, mais en fin de compte, mes parents, ils m'adoraient, mais ils étaient maladroits. Mais mes enfants, ils étaient extraordinaires. Mais moi, j'ai fait une erreur de les comparer avec des autres, au lieu de les aimer pour eux-mêmes. Mais en vérité, j'avais une vie magnifique. Mais je me suis stressé, je me suis culpabilisé de genre, je ne suis pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai, tu n'es pas. Tu n'es pas. Essaye d'être toi-même. Oui, mais comme tu t'es culpabilisé de ne pas être Rabbi Shimon Bar Yochai, après tu as dit à ta femme qu'elle n'était pas la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, après tu as dit à tes enfants, mais vous n'êtes pas les enfants de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comment ils vont être les enfants de Rabbi Shimon Bar Yochai puisque tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Tu étudies un mot de Torah tous les 4 ans et tu dis à tes enfants, vous êtes des batlanim, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux maintenant toi? Oui, vous comprenez cette logique là? Donc ça veut dire maintenant, c'est quoi? C'est un curseur, c'est que la réalité elle monte et toi tu montes. Et la réalité, elle descend, et toi, tu descends. Et tu suis la réalité. Il dit, si tu n'es pas capable de faire ça à chaque instant, c'est-à-dire de créer le réceptacle, le tuyau qui va amener la siyata d'Ishmaïa, alors comment tu vas faire pour vivre? C'est pour ça qu'il y a un autre pasouk que vous connaissez tous. Je m'étonne que vous ne connaissiez pas celui-là, mais déjà le deuxième, je suis sûr que vous allez le connaître. C'est que quand Yehuda, il était devant Yosef, ouais, et qu'il était dans la bagarre, et qu'il a dit qu'il avait promis à son père qu'il allait ramener Benjamin. Alors il a dit un mot comme ça, il a dit « Ki er e'ele el avi ve'ana'ar eneno iti » parce que comment je vais monter chez mon père et le petit n'est pas avec moi, ouais. Donc c'est qui? C'est Yehuda qui parle à son père Yaakov et qui dit « Comment je vais revenir chez mon père sans avoir ramené Benjamin? C'est impossible puisque je me suis porté garant, ça va ?» Mais il y a une autre lecture, mais elle fait un peu peur. Vous êtes bien ou vous êtes fragile aujourd'hui? Hein? Non, elle est très violente. Il dit quand c'est marqué là-bas, c'est pas, ça c'est dans le pshat, mais un peu dans le drash, un peu dans la hassidut, il dit le avi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Ana'a, c'est le fils. Et un homme, quand il va monter là-haut à 120 ans, il a dit, il va arriver devant Dieu. Et Dieu, il va dire, je comprends pas, je t'ai donné une neshama, tu devais l'amener de tzadik, et tu l'as pas rendu de tzadik, qui er et elle est, elle a dit, comment je vais monter devant Dieu, ve anahar, et l'enfant, il est pas avec moi, il est avec une goya, il mange ta ref. Mais je t'ai donné une neshama, et toi, tu l'as pas ramené avec toi, tu l'as pas laissé dans le chemin de la Torah. C'est une autre lecture. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué, ve er et elle est, comment je vais monter, mais qui parle de monter maintenant? Fallait dire, et je vais aller chez mon père, et j'ai pas l'enfant avec moi. Non, ils disent les chachamim. On parle de quoi? On parle de l'homme devant Hachem. Que l'homme, il va dire, mais comment je vais monter devant Hachem? Hachem, il va me dire, alors, ok, toi, tu as la kippa, tu as le talit katan. Oh, c'est bien, où sont tes enfants? Ah, excuse-moi, celui-là est avec Christine, celui-là, il spécialise dans la vente du porc, celui-là, il est dealer à New York, celui-là, il organise des soirées, des rave parties à Hong Kong. Oh, où sont tes enfants? Mais je t'ai donné des nishamot, moi. Je t'ai pas donné des behemoth. Je t'ai pas donné des singes. Moi, je comprends pourquoi les gens, ils prennent des chiens et des chats. C'est moi lourd à porter. Le chat, t'en as marre, tu l'accroches à un arbre, tu t'en vas, tu dis, écoutez, on le retrouve plus. Mais oui, les enfants, tu peux pas. Il y en a qui ont essayé, mais ça marche pas. Ils te retrouvent un jour. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il réfléchit bien. En vérité, que cette logique, c'est quoi? C'est pas pour culpabiliser. C'est pour prendre la responsabilité de dire, wow. C'est-à-dire que si Hachem il me donne des grandes responsabilités, ça veut dire qu'il me donne aussi des grandes capacités. Maintenant, la force du Yetzer Hara, c'est de me casser le moral pour m'enlever les forces, pour que je baisse les bras. Alors, je rappelle que si la Torah a envisagé le divorce de son conjoint, on peut divorcer de son conjoint, mais il n'y a pas de loi pour divorcer de ses enfants. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas écrire un guet à ton fils, tu dis, écoute, j'en ai marre de ta tronche, à partir d'aujourd'hui, je te considère que tu... Non, tu ne peux pas juger. Ta fille ou quoi? Non, tu peux pas. Oui, on peut pas, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux destins, ils sont liés. Pourquoi ils sont liés les deux destins? Tu sais pourquoi? C'est pas simplement parce que l'enfant, quand il va plonger, il va t'emmener avec lui. C'est aussi l'inverse. Que l'enfant, il va t'aider toi à grandir. Parce que nous, on voit beaucoup de gens qui reviennent à la Torah et qui comprennent la grandeur des choses grâce à leurs enfants. Donc quand on dit que les deux destins ils sont liés, d'accord, ça veut dire que dans un sens on a l'autre. Donc ça veut dire au lieu de subir ce que tes enfants ils te font vivre, peut-être ils t'obligent à grandir. Parce qu'ils t'obligent à te remettre en cause, ils t'obligent à réfléchir, ils t'obligent à te redéfinir. Alors, qui tu es? Comment il fonctionne ton couple? Quelle est la place de la Torah dans ta vie? C'est toi qui te repose la question. Parce que ça vient chez toi. Donc ça t'aide à grandir. Donc c'est pas que les enfants, Chas v'Shalom, ils vont te stresser, ils vont t'emmener au Gehinam de l'angoisse. Ils vont t'emmener au Gan Eden. Parce que finalement, cet enfant-là, il nous a poussé, il nous a fait grandir. Il nous a obligé à être. Cette logique-là, c'est ça l'idée. C'est que quelqu'un, maintenant, vous avez compris, quand il construit un bayit, il construit une maison, il doit bien réfléchir. Est-ce que cette maison, elle contient? Maintenant, quand on fait les plans avec l'architecte, on dit, bon, alors vous allez mettre des fenêtres. Ah, écoutez, il faut mettre des fenêtres, des bonnes fenêtres. Hein. Ah bon, vous allez mettre des portes. Ah, il faut mettre une bonne porte. Hein. Il faut mettre des murs solides. Hein. Il faut mettre un toit qui tient les tempêtes. Pourquoi? Fais n'importe quoi. C'est pas grave, de toute façon. À quoi ça sert de faire une belle maison? Une maison solide? Non, tu es obligé. Pourquoi? Parce que la maison, c'est un bayit. La baït, elle développe à l'intérieur, pour ça s'appelle baït, ouais, mais en même temps, elle protège de l'extérieur. Maintenant, si nous, on met une porte blindée à la porte, parce qu'on a peur que des voyous y rentrent, d'accord? Et si nous, on met des fenêtres avec un alarme, et si on met des caméras de surveillance, d'accord? Et si on fait attention de bien nettoyer la maison pour pas qu'il y ait des microbes, alors c'est marqué « Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha », ouais. Alors tu mettras des juges et des policiers, bechol she'arecha, dans toutes tes portes, asher Hashem elokecha noten lecha, dans toutes les portes qu'Hashem te donne. Maintenant, là où est la force d'Internet, c'est que la porte, elle est dedans, elle n'est pas dehors. C'est ça la force. C'est que la porte, elle est dans la maison. Elle est déjà dans la maison. Oui. Déjà à l'époque, quand ils ont, il y a 30 ans, plus de 30 ans, je me rappelle, Rav Hankins, le Rav d'Exlémin, il me disait, dis-leur aux gens que la télé, c'est la mort du foyer. Quand la télé, elle rentre dans la maison, ouais, c'est la mort de la maison. Parce que toute la vie de la maison, elle doit être axée sur les personnes. Les murs et les meubles, on s'en fout. Mais on est assis et on parle et on échange et on rigole et on s'engueule et on rentre dans une chambre, on rentre dans une autre chambre et on parle. Ici on fait à manger, ici on fait des bébés, ici on fait de la communication, ici on fait de la remise en cause, ici on fait de l'étude de la Torah. Mais si tu mets la télé, c'est terminé. Parce que chaque individu disparaît devant la source de lumière. La lumière qui bouge et les gens restent devant. D'accord? Maintenant ils ont fait encore plus vicieux. Ils ont mis la télé, chaque personne individuelle avec Internet. Après, ils ont mis la télé individuelle dans chaque téléphone. Maintenant, ils sont arrivés à une maladie extraordinaire. Tu vois, ils font comme ça des... Tu vois 50 personnes ensemble et chacun, il est tout seul. Parce que chacun, il est comme ça. Tu vois, tu vas dans un restaurant. Je me rappelle, une fois à Montréal, j'étais choqué. Il y avait 6 personnes dans une famille, 4 enfants et les 2 parents. Et chacun, il était devant le... Alors, le père, il était seul. Il n'avait pas de téléphone. Il a payé 200 ou 300 dollars de repas pour que la famille, elle, se réunisse. Il aurait pu leur mettre des excréments de chien. Ça aurait été pareil. De toute façon, ils étaient occupés, les gars. Ouais. Alors, bon, mais le téléphone, c'est nécessaire, on a besoin. Même mes enfants, moi, hein, ils me disent, papa, il nous faut un téléphone. Je dis, pourquoi tu veux un téléphone? Alors, le premier argument, il te dit, pour la sécurité. Je dis, mais nous, on était dans des cités de voyous. Moi, c'est un miracle que j'ai fait la yeshiva. C'est un miracle. Parce que tous mes copains, ils étaient dans la drogue. Ils volaient les voitures, ils volaient les motos. Ils sont morts en prison. Quand je revenais, je disais à ma mère, qu'est-ce qu'il est devenu truc? Il est mort. Ah bon? Et celui-là, on l'a trouvé dans une banque. Il a attaqué une banque. Et celui-là? Et moi, la yeshiva, avec mes frères. C'est-à-dire qu'on était à Sodome et Gomorre. Trois garçons. Tac, tac, tac. Alors, rentrer à la yeshiva avec le chapeau, avec la Gemara, Rabbi Shimon Shkop, et on revenait une fois par mois à la maison. Tiens, et Ahmed, il est mort. Ah, il est mort, Ahmed, ouais, il est mort. Ah bon. Et Pierre, il est mort. Comment on était sauvés? Mais d'autre côté, c'est bien parce que c'était des dangers qui se voyaient. Maintenant, tu vois des dangers qui ne se voient pas. Alors que nous, on avait l'insécurité, on avait les voyous, on avait les bagarres, on avait la drogue, on n'avait pas de téléphone. C'est-à-dire qu'à la limite, les parents, ils étaient nia, parce qu'on partait le matin, il y avait des coups de couteau dans les métros. Est-ce qu'on va revenir le soir? Il n'y avait pas de téléphone. Alors, ne me dis pas la sécurité. Vous comprenez ou non? Ne me dis pas. Au contraire, quand tu as un beau téléphone, c'est là que tu vas te faire attaquer, parce qu'il va te le voler, le gars. Donc, c'est ton téléphone qui t'enlève la sécurité. Ouais. Après, tu te dis, bon, mais c'est pour pouvoir parler avec mes copines, avec mes copains. Mais tes copains, ils sont là. Parle avec eux. Invite-les à la maison. Non, c'est pas pareil. 3 heures, comme ça. Parkinsonien. Il bouge les doigts, tu dis, c'est, il a Parkinson? Non, non, c'est chat. Avec les deux doigts. Celui-là, il va avoir une arthrose à 21 ans. D'accord. Mais la personne, elle est devant toi. Tu veux lui parler? Parle-lui. Tu veux entendre la voix. Tu veux passer un moment. Tu vas aller manger une pizza, cachère,
ouais,
avec la personne. Et tu as un échange, tu parles. Tu vis avec la personne. Non, tu vis avec le pseudo. C'est-à-dire qu'il détruit l'échange, il détruit l'image, il détruit l'imagination aussi, parce qu'il faut savoir quand même, il faut dire la vérité, il faut regarder les statistiques. Hein. Moi, je me suis amusé sur Internet pour regarder comment l'égoïme, il parle d'Internet, c'est intéressant. Les juifs, tu vas dire, ah, les rabbins, c'est normal. Mais l'égoïme, eux, comment ils parlent, ouais. Ils te disent de plus que 90% des connexions, c'est sur les vidéos rigolotes. C'est-à-dire que les gens, ils passent leur journée et leur nuit à rigoler sur des vidéos de 4 minutes débiles. Maintenant, on n'a jamais vu qu'un gars qui passait 3 heures par jour à regarder des trucs débiles, il devenait intelligent. C'est statistique.
Il n'a rien à faire.
Maintenant, moi, je comprends. Quelqu'un qui a rien du rien, comme il a dit, rien, le vide. C'est sûr que c'est toujours moins vide que le vide. C'est comme les gens disent, bon, c'est mieux que rien. Oui. Après, c'est une question dans la vie. Est-ce qu'on veut du mieux que rien ou on veut du bien? Oui. Et si on veut du bien, est-ce qu'on veut du mieux? Ou non? En vérité, c'est un problème d'ambition. Le vrai problème, c'est un problème d'ambition. Ça veut dire que la société, étant donné qu'elle a concentré tout l'avenir de l'humanité sur l'économie, l'économie, et que l'économie dépend de la consommation, donc on est obligé de fabriquer des consommateurs. Or, consommateur, c'est un mot qui s'écrit en 2 mots. Ouais. C'est des gens qui consomment comme des consommateurs sans sommation. Sans prévenir. Ils appellent ça l'achat compulsif. Par exemple, avant tu vas dans un magasin, tu dis ça me plaît, bon je reviens, je truc. Après tu trouves un magasin où tu peux acheter tout de suite. Après le magasin tu dis ah il y a une vente flash, vous avez 10 minutes pour acheter. Après ils veulent te mettre sur internet, d'accord, 70%, 95%, 60%. Après ils t'ont mis bon mais il faut quand même remplir un formulaire. Après ils t'ont fait non, vous pouvez mettre, vous mettez juste votre email et vous pouvez acheter. Après ils vont te mettre, maintenant tu mets ton téléphone directement, tac, tu cliques, hop, il achète. Maintenant ils ont inventé un truc. Ça, c'est un truc, un business que je vous, qui va sortir, si Dieu veut, bientôt. Ouais. Oui, parce que l'État, il participe. Si vous regardez ça, j'ai découvert ça cette semaine, ça s'appelle Amazon Dash. Vous avez entendu parler de ça ou non? Et on va sortir un petit peu, toujours la Yeshiva. Écoutez bien, c'est un truc phénoménal. C'est phénoménal. C'est un petit appareil comme ça, d'accord? Par exemple, vous vendez de la lessive, d'accord? Vous vendez de la lessive. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous distribuez dans les paquets de lessive ce petit appareil. C'est un petit appareil. Cet appareil, vous le collez sur la machine à laver. Il n'y a rien dessus. Il y a la marque de la lessive et il y a un bouton. Maintenant, quand vous l'avez acheté, vous vous inscrivez sur Internet. Maintenant, ce bouton, il est directement lié à la maison mère de la lessive. Et quand vous voyez qu'il manque de la lessive, vous appuyez sur le bouton. Tout seul, il va sur Internet. Il vous prend de votre carte bleue. Il vous fait la facture et vous le recevez le lendemain. Un clic. Attention, ne clique pas 2 fois parce que 2 fois, 2 paquets. Si tu es nerveux, 10 paquets. Ça veut dire ils vont dans la logique du compulsif. D'accord. C'est-à-dire que moins tu réfléchis, plus tu consommes. C'est extraordinaire. Maintenant, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Du Coca-Cola, louer une voiture, n'importe quel truc. Ouais. Ça coûte rien, ça coûte 2 dollars l'appareil. Mais tu rends les gens... Donc toi, tu appelles les marques, tu dis voilà, moi je vous distribue votre produit facilement. C'est que les gens ils vont plus dans les magasins ni rien. Et au lieu d'aller sur internet, faire la commande, rentrer ton nom, ton prénom, ta carte, rien, clic, hop, ça rentre. Tu cliques, ça rentre. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Maintenant, si tu le prends au niveau sociologique, tu dis c'est une avancée technique qui permet aux gens de se libérer. Mais tu n'as pas remarqué que les gens, ils ont de plus de temps pour se libérer, mais ils font de moins en moins de choses dans leur vie. C'est bizarre, non ? Qu'ils ont plus de temps, mais ils ont toujours moins de temps. Chaque fois que tu appelles, tu dis « Excuse-moi, je suis occupé, j'ai pas le temps, j'ai le truc. » Et à part ça, qu'ils ont que des problèmes bidons. Ouais, l'autre, il est stressé, elle est stressée parce qu'elle s'est cassée un ongle, et il y a la bat mitzvah de sa fille, elle va mourir, parce que, regarde, on dirait une handicapée, vraiment, j'ai envie de mourir. Chérie, c'est juste un ongle. C'est pas grave. Ouais, mais tu sais ce que ça veut dire ? Tu sais ce que c'est un ongle ? Ouais. Pourquoi ? Pourquoi les gens, ils ont des petits problèmes ? Parce que les gens, ils sont petits. Toujours, j'ai dit, pourquoi à Auschwitz, dans les camps de la mort, les gens, ils ont attrapé le typhus, ils ont attrapé la malaria ? Ouais, mais ils n'ont pas attrapé de rhume. Moi, j'ai lu des centaines de livres. Jamais quelqu'un t'a marqué, il t'a dit « Ah, j'ai attrapé une angine à Bergen-Belsen ». Non. Pourtant, ils étaient en pyjama, avec des sabots en bois. Il faisait moins 30. Et tous les matins, on les réveillait à 5 heures. Ils restaient 3 heures comme ça dans le froid, en train de geler. Et le nazi, il avait le truc en dessous, là, le caleçon. Il avait le pantalon. Il avait le manteau. Il avait le manteau en cuir. Et il avait froid. Et l'autre, il est en pyjama, tout nu en pyjama, à moins 30. Il n'y a pas un qui a attrapé une grippe. Tu sais pourquoi ? Parce que quand, tous les jours, tu ne sais pas si tu vas mourir le soir même. Quand ton père et ta mère, ils sont sortis par la cheminée, tu crois que ton problème, c'est la grippe. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire que nous, on a assez de liberté pour avoir des faux problèmes. On a assez de tranquillité pour avoir des maladies bidons. On a assez de richesse pour se faire des lourdeurs. Est-ce qu'ils avaient le temps, les gens, d'avoir des problèmes ? Ils n'avaient pas le temps. Parce que c'était dur. Mais la vie, c'est pareil. Si toi, maintenant, tu es malin, tu remplis tellement ta vie, qu'après, ça, c'est des bêtises. Mais quand tu remplis ta vie de bêtises, il te reste les vrais problèmes. Mais tu as encore moins de temps pour les régler. C'est-à-dire que tu as le temps pour développer une dépression, mais tu n'as pas l'intelligence ou tu n'as pas le recul pour gérer ta dépression. Alors ta dépression, elle dure. Elle devient même une raison de vivre. Ça fait vivre les psychologues, c'est bien ça. Ça fait une part d'un ça pour les psychologues. Mais en vérité, dans l'absolu, ça vient de quoi ? Ça vient du vide. Parce que les gens, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils ont ? Et c'est vrai. Parce que tu vois ces pays-là, la consommation, donc l'existence par l'avoir, donc le manque d'être, donc le manque de sens. Donc l'exomile et le tranxène, comment ça se fait ? Parce que les gens, ils travaillent pour consommer. Ils font des études pour consommer. Ils se marient pour consommer. Si Dieu veut, bientôt on achète les meubles. Ouais, ils font des enfants pour consommer. Les anniversaires, les fêtes, les cadeaux. Ils passent leur vie à ça. Mais donc c'est le vide pour le vide, le vide pour le vide, le vide pour le vide. Alors un jour à 35 ans, il est foutu dehors de sa maison, sur son travail. D'accord ? Sa femme, elle dit « J'ai trouvé plus joli ou plus riche que toi ». Les enfants, ils disent « Papa, tu ne donnes pas assez. On va voir avec le beau-père, il est plus riche que toi. » C'est beau comme ça. Exactement comme une imprimante. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les imprimantes, on a un problème. C'est que les cartouches coûtent plus cher que l'imprimante. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les imprimantes ? Non, mais c'est beau. On a fabriqué des machines inutiles. Parce qu'avant, tu disais, il faut fabriquer une machine. Et on va... Les consommables. Pour la machine. Maintenant, c'est le contraire. En vérité, la machine, c'est un prétexte. Ce qu'on veut, c'est les consommables. D'accord ? Et bien maintenant, ils ont fabriqué des personnes jetables. Des personnes jetables. Tu les fais grandir, tu leur fais faire vivre. Comme la machine. Elle est performante, mais elle ne sert à rien. Comme tu vois des gens sterbo, encore hier, j'ai fait un cours hier à Neuilly, il y avait 450 personnes. C'était beau. Oh, bon. Hier soir, 450 personnes. C'est Motsaï Shabbat. Et à la fin du cours, Rabbi Chetrit, faites une bracha pour que je trouve le shidour. La fille, elle est jolie, elle est gentille, elle est autonome, elle a 35 ans, ou à 30 ans, elle est avocate, elle est expert comptable 6e niveau, elle est chirurgien baba, elle a déjà son appartement, elle n'est pas mariée. Elle dit, je voudrais avoir un enfant, je voudrais avoir un bébé. Je trouve pas. Parce qu'ils ont fait des femmes qui sont tellement fortes que du coup, ils ont fait des hommes qui sont faibles. Donc, elle te va se marier, il n'y a que des pauvres types. Donc la femme, elle est devenue un mec, et le mec, il est devenu une femme. On va gérer maintenant. C'est pour ça qu'ils se mettent avec des sauvages, qui viennent de sortir de la brousse. Parce que c'est des taureaux. Alors que l'autre, vous habitez chez vos parents? Tu as un travail? Tu as une parnassa? Non. Mais j'ai fait 150 000 aux jeux vidéo. Jeux vidéo? J'arrive à fumer 12 par jour. 12 par jour? Mais quand il te reste du temps pour travailler? Ouais, mais mon père, il était dur avec moi, c'est pour ça que je fume. Arrête. T'as compris ou non? C'est qu'ils ont fabriqué des hommes faibles, des gens vides. Mais c'est normal. Parce qu'ils fabriquent des machines, mais le plus important, c'est pas la machine, c'est ce qu'elle consomme. Ils ont fabriqué des consommateurs. Et bien, quand un consommateur n'est plus capable de consommer, il est jeté. C'est pour ça qu'en Amérique, quand le gars ne peut pas payer son crédit, on le fout dehors de la maison. Je ne comprends pas, mais c'est la société qui est au service de la personne ou c'est la personne qui est au service de la société? C'est une maladie, ça s'appelle la finance. Vous voyez? Maintenant, nous, on est en dehors de ça. On voit ce film. On voit le film de la consommation. Vous voyez? On voit le film de l'économie. On voit le film de la dépression. On voit le film de la débauche. On voit le film de la violence. Vous savez, ils ont fait des statistiques qu'il y a 65% de plus de violence dans les pays où il y a la télé. Mais ils continuent quand même à donner des télés. Quand je me suis marié, mon beau-père, il m'a dit, écoutez, vous avez eu tous les cadeaux, il vous manque la télé. On vous offre la télé. Je dis, c'est pas la peine, je vais la jeter par la fenêtre. Il m'a dit, quoi? Une grande télé? Tu la jettes par la fenêtre? Oui, je la jette par la télé. Pourquoi faire? Je dis, il n'y en a pas besoin. Tous les ans. Vous savez, en Italie, ça existe aussi. Quand tu fais les impôts, tu payes pour la télé. Mais nous, on oublie de cocher qu'on n'a pas de télé. Donc à chaque fois, on paye 130 euros en plus. Après, on doit faire une lettre. Un jour, le gars des impôts, il m'a appelé. Il m'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas de télé. Vous avez bien une grande famille. Vous n'avez pas de télé. Je n'en ai pas de télé. Il m'a dit, le gars, il a eu tellement de la peine. Le gars des impôts, il m'a dit, je vous offre une télé. Je dis, mais...
Rembourse-moi l'argent que j'ai payé.
Non, il rembourse, il paye. Mais il avait de la peine, parce qu'il a vu tous les ans. Vous n'avez pas de télé. Il dit, mais si c'est pour la télé, je vous achète la télé. Je dis, mais j'ai pas besoin de la télé. C'est que quand quelqu'un il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 enfants, c'est... Quand il a le temps de trouver de s'occuper de la télé, quand? Vous avez compris ou non? C'est qu'il y a tellement à faire, il y a tellement à développer, il y a tellement à construire. Mais c'est un vrai problème. C'est que la société, elle est malade. La société, elle est malade. Et elle produit des produits qui entretiennent la maladie. Maintenant, où quelqu'un, il va être très fort, comme des goïms qui partent à la montagne, ils vont à la campagne. Ils n'ont pas de télévision. Tous les enfants, ils doivent lire des livres. Et tous les enfants, ils font des maths et du français. Et ils vont faire du sport. Et ils vont faire de la voile. Ouais, et il n'y a rien, il n'y a pas de télé, ils sont pas fous, des goïms, ils sont pas fous. Et leurs enfants, ils vont les mettre dans des grandes écoles. Mais le brel, vas-y, prends la télé, prends internet, prends le téléphone, et les gens... Une fois, j'étais dans un grand magasin d'informatique pour acheter un truc. Et je passe devant le stand des jeux vidéo. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Des jeux vidéo, ouais. Plus vrai que la réalité. Oui. J'ai dit, mais comment, si un enfant il voit ça, comment il va ouvrir une Guémara? Il ne peut plus. La Guémara, il n'y a pas d'image. D'accord? Vous prenez 2400 pages de chasse, il y a genre 10 images. Dans Sota, il y a des petits schémas, comment on porte le truc. Dans Souka, il y a le rond et le carré dans le rond, contre la Souka et le carré où elle est ronde. D'accord? Là-bas, il y a un peu dans Tamid, il y a un peu les plans du Betamikdash. Il n'y a presque rien comme image. Tout le reste, c'est des mots. Tu dis, mais pourquoi des mots? Mais des images. Nous, on est les rois des images, non? Hollywood. Ça a été créé par des juifs. Donc, on est fort en images, nous. Ouais. Qui c'est les plus grands designers? C'est des phages. Qui c'est qui crée la communication et les images, les grandes agences de pub? Ouais. C'est des phages. On sait faire l'image, nous. D'accord? Mais l'image, elle est dangereuse. Tu sais pourquoi? Parce que l'image, elle bloque l'imagination. Quand tu lis un livre, tu t'imagines une chose. Quand tu écoutes une musique, tu imagines quelque chose. Mais quand je te mets une image, tu ne peux pas imaginer autre chose. Ça détruit l'imagination. Or, il faut savoir que l'imagination, c'est ce qui permet d'élargir le mental. Les gens qui n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas d'idée non plus. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projection. Ils n'ont pas d'anticipation. Ils n'ont pas de vision. mais ils sont des bons consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils réagissent de manière compulsive à une image. Hop, il reconnaît. On lui met toujours la même musique, le gars, il reconnaît la musique. On lui met toujours le même nom, il reconnaît le nom du produit. D'accord ? Les gens, ils veulent pas un pantalon. Ils veulent pas un costume. Ils veulent un Zara. Ils veulent pas un pull. Ils veulent un Célio. C'est vrai ou non ? Ils veulent pas un jean. Ils veulent un... Je sais pas quoi. Ouais. Ils veulent un Levi's. Ça veut dire qu'ils deviennent des panneaux annonceurs. Maintenant, tu lui dis, tu sais que la qualité, elle est peut-être pourrie, hein. Tu la payes juste 6 fois plus cher, mais elle n'est pas meilleure. Mais quand même. Mais quand tu réfléchis, tu dis, ça veut dire que quoi ? C'est que je ne suis pas en train de m'habiller, je suis en train de porter des marques. Je ne suis pas en train de manger, je suis en train de participer à une aventure. D'accord ? C'est comme Apple, par exemple. Apple, c'est un phénomène au niveau psychiatrique extraordinaire. Pour vous dire, même moi, j'en ai un. Ouais. Mais j'ai dit, la chorma d'Apple, c'est pas qu'il a fabriqué des téléphones super, c'est qu'il a créé un besoin qui s'appelle Apple. Donc les gens, ils vont payer 6 fois plus cher. Mais ils s'en fichent. Parce qu'ils ne veulent pas un téléphone, ils veulent Apple. C'est-à-dire qu'il a créé un produit d'Apple. C'est un produit d'Apple. Non, c'est l'Apple. Il entend l'Apple du ciel. Ouais. Après, c'est une drogue. Quand ils savent que le 6, il va sortir, le 7. Moi, j'ai dit, tu veux faire une blague ? Annonce la sortie du 8. Ils vont tous jeter leur téléphone, les gens. Ils sont fous. Ils commandent 3 à l'avance. Mais quel chorma ! Mais c'est la chorma de qui, ça ? De créer le besoin avant de créer le produit. Qui c'est qui fait ça ? Mais c'est qui le plus grand revendeur du monde ? C'est Yetzira. Pourquoi ? Parce que lui, il crée le manque avant de créer le produit. D'abord, il te crée le manque dans ton couple que ça ne va pas bien. Après, il te propose une fille extraordinaire qui correspond exactement au manque de ta femme. Ouais. D'abord, il te crée le manque, qu'il te manque de l'argent dans le business. Après, il te propose une embrouille qui va te faire gagner exactement ce qui te manque pour combler le business. D'abord, il te crée un manque au niveau confiance en toi. Après, il te trouve un produit qui augmente la confiance en soi. Mais si toi, tu réfléchis, tu dis, mais je ne comprends pas. Ça veut dire que le problème, il n'a pas commencé quand j'ai vu la chose. Le problème, il a commencé quand j'ai créé le manque. C'est pour ça qu'un homme, il doit toujours être shalem. Il doit être complet. Maintenant, on ne peut pas devenir complet avec du vide. On devient complet avec du complet. Comme le Rambam, il dit dans les Chantiers de la Torah, il dit que le prophète, il doit être racham, il doit être intelligent, il doit être riche, il doit être beau, il doit être fort. Le Rambam, il rapporte ça. Il dit pourquoi ? Parce que c'est ton exemple. Oui. La Torah, elle cherche des preuves que Moshe Rabbeinu, il était fort. Il était très très fort. Et que Aaron HaKohen, il était très fort. Il a soulevé 22 000 pères Kohanim en une seule journée. D'accord ? Et qu'il était très très chacham. Il y a une marloquette là-bas dans la force. Est-ce que c'était une force physique ou une force mentale ? Oui. Mais le Rambam, il dit que c'était une force physique. Après qu'il était très riche. D'accord ? Il fallait qu'il soit riche. Il fallait qu'il soit très beau. Pourquoi toutes les qualités ? Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un exemple. C'est un repère. Donc celui qui est fin, il va dire, tu te rends compte la névoie qu'il avait Moshe Rabbeinu ? Celui qui est Tamid Chacham, il va dire, tu te rends compte la chorma qu'il avait Moshe Rabbeinu ? Et celui qui est simple, il va dire, tu as vu la beauté de Moshe Rabbeinu ? Et celui qui est encore plus simple, il dit, tu as vu la force de Moshe Rabbeinu ? Ça va être un repère. D'accord ? Mais alors qu'est-ce qu'elle a fait la société ? Elle a fabriqué des repères. Les acteurs et les joueurs de football. Ouais. Mais un acteur, je vous rappelle, pour ceux qui ont déjà vu un film dans leur vie, c'est que l'acteur n'est pas fort. Il joue un rôle. Il joue le rôle du fort. D'accord ? Après, non seulement qu'ils ont donné un cabot extraordinaire à l'acteur, mais après, ils ont fait une référence de l'acteur. Après, ils ont fait des festivals pour nominer des acteurs. Après, ils ont donné des prix extraordinaires des acteurs. Après, ils ont créé une rue avec les empreintes des acteurs. Et après, ils ont nommé des acteurs présidents des États-Unis. Comme en France, où tu vois, aux infos, ils vont interroger un acteur. Qu'est-ce que vous pensez de la société, du problème des immigrants, ou qu'est-ce que vous pensez de la crise en Syrie ? Mais le gars, il n'a pas de QI. Demande à un spécialiste de l'histoire, ou un politologue, ou un sociologue. Qu'est-ce que tu demandes à un gars comme ça qui fait le rigolo dans des films, tu lui demandes une question comme ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fabriqué des références qui sont fausses. D'accord ? Mais quand tes références, elles sont fausses et qu'elles sont débiles, donc tu ne peux pas chercher l'essentiel. Donc tu vas chercher le superficiel. Donc c'est encore un outil qui te pousse à la consommation. Donc ils font de toi un consommateur. Mais c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, les Chachamim, ils disent que tu dois toujours regarder dans chaque chose que tu fais, Sraro Keneged Efsedo. Ce que tu gagnes par rapport à ce que tu perds. Même dans les mitzvot, tu dois choisir une mitzvah où tu gagnes plus par rapport à la vera où tu perds plus. Mais dans tous les choix que tu fais, maintenant, si on n'a pas appris à nos enfants à voir qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui est mauvais pour eux, alors à quoi on sert? D'accord? Moi, même mes enfants, je leur dis, écoutez, même si vous allez travailler, même si vous allez ouvrir un restaurant, même si vous voulez être ingénieur, allez faire un ou deux ans d'yeshiva. Pourquoi? Parce que ça te donne une référence. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Parce que tu as vu des chachamim, tu as vu la pureté de la Torah, tu as vu la parnassa qui tombe du ciel, parce qu'un kollel loin, il sait pas de quoi il va manger. Il te dit, c'est pas possible, il gagne 2200 shekels. Il a mangé tous les jours. Hein. Alors que l'autre, il dit, moins de 7000 euros, je m'en sors pas. Et c'est vrai, il s'en sort pas à 7000 euros. Oui, parce qu'il a la Cherokee, il a déjà 3000 euros de leasing sur la Cherokee. L'autre, il a 2200 shekels ouais, par mois. Il a 2200 shekels par mois et il aide son cousin. Il lui fait des courses en cachette, il le pose devant la porte et il s'en va. D'accord, oui ou non? Il trouve de l'argent dans ses économies à lui pour faire des courses au cousin et pour lui mettre devant la porte et partir. Et l'autre, il vous la porte, en vérité, il a honte, il n'a même pas de quoi manger. C'est comme à 2200 shekels, il peut aider le cousin. Et celui-là, il gagne 10 000 euros par mois. Tu lui dis, écoute, j'ai une famille qui n'est pas bien, tu peux faire quelque chose? Excuse-moi, je suis ric-crac. Si tu veux, j'ai 5 euros. 5 euros. Pourquoi? Parce que celui-là, il est dans l'essentiel. L'essentiel, on trouve toujours une solution. Dans le superficiel, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi tu ne peux pas faire? Fais-le! Pourquoi tu ne peux pas faire? Ce n'est pas évident. Il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement regarder de l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire le côté grossier comme ça d'Internet et du téléphone. Il faut voir à quoi on renonce. Que peut-être que tu perds beaucoup plus que ce que tu gagnes. Mais comment la personne va le savoir si elle n'a pas l'équivalent? Si elle n'a pas la vraie valeur, comment elle sait? C'est comme les gens qui ne savent pas qu'ils ont une valeur. Ils peuvent perdre leur temps. Ils peuvent perdre leur vie. Là, j'étais jeudi soir à Aix-les-Bains. J'ai fait un cours. Que des jeunes. Il y en avait un, 17 ans et demi. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, j'aide quelqu'un. Je dis, c'est quoi aider? Il me dit, ben, je lui fais les cours, je lui fais sa lessive. Je fais, mais tu ne travailles pas? Il me dit, non, depuis le CM2, je ne vais plus à l'école. Combien tu as de frères et sœurs? 16. Je dis, mais tu veux pas faire quelque chose dans ta vie? Mais non, je suis nul, je suis pas capable. Je vais me marier, tout ça, t'as 17 ans. C'est un discours d'adulte dans un corps d'enfant et dans une tête d'enfant. Alors je dis, écoute-moi bien. Moi, je vais te donner un programme sur le respect de soi, sur les corps. Maintenant, je suis comme ton père, je vais t'aider, tout ça. Après, j'attrape un gars, je dis, écoute, voilà, si tu la trouves, lui, un prof de français, un prof de maths, je paye moi. On va lui refaire toutes les classes, on va le rattraper vite. Il m'a dit, t'es sûr? Mais bien sûr, il est très intelligent, mais seulement il n'a pas confiance en lui, il est jeté. Comment à 17 ans, t'es perdu? 83 ans avec un cancer du pancréas, j'ai dit, ok, meurs tranquille. Ouais, mais 17 ans, il n'y a rien, il y a toute la vie devant toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est détruit dans les mauvais choix. Les mauvais choix, d'accord? De rien faire à l'école, après de se battre pour avoir un téléphone, après de se bagarrer pour avoir une mini-jupe, après de... Pourquoi faire? Mais qu'est-ce que t'as gagné maintenant? Donc c'est ça le problème. C'est que le Yetzer Hara, il fait qu'à un âge où tu devrais faire des grands choix, mais tu as encore la tête dans les petits choix. Tu as un corps assez grand pour faire des bêtises, mais pas le cerveau pour t'en rendre compte. Alors ça fait un décalage. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'accompagner les enfants, oui, pour qu'ils grandissent vite, et qu'ils soient vite, qu'ils aient des valeurs. Parce que ces valeurs, quand ils les ont, même si après c'est difficile, et même s'ils remettent en cause, mais le jour où ils vont se réveiller, ils ont la valise. C'est comme je te dis, garde toujours cette valise avec toi. Garde cette valise avec toi. Mais elle est lourde, garde la valise avec toi. Un jour, il ouvre la valise, il trouve la Torah, il trouve le Shabbat, il trouve l'équilibre, il trouve la Kedusha dedans. Mais s'il n'a pas de valise, quand il va se poser des questions, il n'aura rien. Cette logique-là, qu'est-ce que c'est en vérité? C'est comme si vous imaginez un fleuve. Ah ben d'abord, il faut comprendre. Il y a une loi dans la physique quantique, ouais, qui s'appelle la relativité. Dans la relativité, il y a une image très facile à comprendre. Il y a un gars qui est dans une gare. Il est assis dans une gare. Et il y a un train qui passe. Et dans le train, il y a quelqu'un qui est assis dans le train. Maintenant, le gars, il est assis dans le train, mais le train, il avance. Ça va ? Mais lui, il est assis. Et le train, il avance. Maintenant, celui qui est assis dans la gare, il voit quelqu'un qui bouge. Celui qui est assis dans le train, il voit quelqu'un qui ne bouge pas. Celui dans la gare. Maintenant, celui qui est dans le train, il avance. Vous voyez ? Mais lui-même, il ne bouge pas. Mais il avance parce qu'il est dans un train qui avance. Ça va ? Ça va. Alors maintenant, prenez cette image-là. Et je vous... Et relisez un passage dans la Torah que vous connaissez par cœur. C'est marqué « Ubechukotai telechu » Et dans mes lois, vous irez. D'accord ? Dans mes lois, vous irez. Des fois, la Torah, elle dédie « Chokotai tishmeru »« Ta'asu »« Tekayimu » Ouais. « Tiskeru » Mais là, c'est « telechu » Dans mes lois, vous irez. Maintenant, ça veut dire quoi « telechu » Vous irez. D'accord ? C'est quoi le contraire d'aller ? Rester, reculer, stagner. C'est quoi encore le contraire d'aller? Parce que marqué téléchou. Téléchou, c'est quoi? Attention, c'est qu'il y a un mouvement. Tarzor, ouais. Eh bien, c'est pas ça la réponse. Parce que c'est quoi téléchou? Attention, téléchou, c'est qu'il y a un mouvement et toi, tu es dynamique dans le mouvement. Ouais. Toi, tu es dynamique dans le mouvement. Tu marches. Dans un mouvement, il y a un mouvement et toi tu es dynamique dans le mouvement. Mais il peut y avoir un mouvement, mais toi tu es passif dans le mouvement. Donc c'est quoi le contraire d'aller ? Non, c'est le laisser aller. Tu te laisses aller. Ouais, tu te laisses aller. Ça veut dire quoi ? Alors moi je vais te donner une image. C'est un barthora que j'ai fait ce Shabbat à mes enfants. Attends. Ma femme, elle était comme une folle. Je dis, c'est comme si tu regardes une rivière. La rivière, il y a le courant. Maintenant, dans le courant, il y a un bateau. Le bateau, il a un moteur. Il avance dans le courant. Dans le même sens que le courant. Mais tu prends un tronc d'arbre, tu le jettes. Il n'y a pas de moteur. Mais il avance dans le courant. Maintenant, quand tu regardes le bateau et tu regardes le tronc d'arbre, imagine qu'ils vont à la même vitesse. Donc, tu dis, les deux, ils avancent. Non, il y a une différence. Parce qu'il y en a un qui avance et il y en a un qui se laisse aller. Il se laisse porter par le courant. Vous me suivez ou non? Mais c'est très grave. Parce qu'il y a des gens, tu crois qu'ils avancent, mais en fait, ils se laissent aller. Celui-là, il se laisse aller par la mode. Celui-là, il se laisse influencer par l'égoïme. Celui-là, il se laisse aller par ses pulsions, parce qu'il est coléreux. Alors, il écoute sa colère. Celui-là, il a de la tahava. Il suit sa tahava. Celui-là, il est bête. Il suit sa bêtise. Mais en vérité, tu crois qu'il est en mouvement. Mais le mouvement de la Torah, il ne doit pas être seulement en mouvement. Parce que de toute façon, l'univers, il est en mouvement. Qu'est-ce que tu veux maintenant? L'univers, il bouge, les planètes, elles bougent, la mer, elle avance, le vent, il truc, les particules, elles se développent, les fourmis, elles avancent, les protons, tout le monde est en mouvement. La question, c'est que tu dois être toi en mouvement, dans le mouvement. Ou Bechukotai, Telechu, c'est pour ça que ça s'appelle Halakha. Pourquoi la Halakha, c'est Halakha? C'est bizarre. Ouais. C'est quoi Halakha? Parce qu'on dit Adam Oler, un homme va. Donc, Ubechukotai Telechu, ça veut dire en vérité Telechu, c'est quoi? Vous irez dans la loi. Altikre Alichot et la Halakha. Donc, c'est quoi la Halakha? La Halakha, c'est la trajectoire de déplacement d'un homme. Quand tu veux savoir comment tu te déplaces, comment je me déplace dans la nourriture, Halakha. Comment je me déplace dans la parole, Halakha. Comment je me déplace pour concevoir des enfants, Halakha. Comment je me déplace dans l'habillement, Halakha. Comment je me déplace dans le business, Halakha. C'est-à-dire que tu vas te déplacer. Maintenant, tu peux aussi te déplacer sans l'Halakha. Tu peux faire du business sans l'Halakha. Tu peux faire des enfants sans l'Halakha. Tu peux manger sans l'Halakha. Tu peux. Mais ça ne s'appelle pas Ubechukotai et Telechu. Oui? Maintenant, quand toi, puisque la halakha, elle te demande de prendre en charge, parce que tu dois apprendre la Torah et appliquer la halakha. Mais si tu ne le fais pas, parce que la Torah l'a dit, oh, pourquoi tu le fais? Bah, tu vas dire, je le fais parce que j'ai grandi là-dedans, conditionnement des animaux, d'accord? Ou tu vas dire parce que mes pulsions, elles me poussent à le faire, ou parce que mon instinct de survie, il me fait, ou parce que c'est la société de consommation qui m'a conditionné à être ce que je suis. Mais ça s'appelle pas toi, ça. Ça s'appelle laisser aller. Maintenant, le problème, attention. C'est que dans le mouvement, ouais, comme ça il avait dit Albert, ouais, il a dit le secret de l'univers c'est le mouvement. Mais le pauvre, c'est dommage qu'il n'a pas lu la Torah. Ubechukotai, Telechu. Maintenant, puisque Hachem, il crée le mouvement de l'univers, et que l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, donc l'homme aussi, il crée le mouvement de l'univers. C'est l'homme qui crée le mouvement de l'univers, avec Hachem, il crée le mouvement de l'univers. Maintenant, remarquez une chose. Si toi, tu es sur un vélo, ouais, tu pédales. Ou si toi, tu es dans une voiture et tu descends une pente de montagne, si, tu, à un moment, tu dis, attends, mais de toute façon, la roue, elle descend. La route, elle descend. Pourquoi j'ai besoin de... Je vais couper le moteur. C'est très, très dangereux. Tu coupes le moteur, tu descends la route. Et tu freines. Quand il y a un virage, tu freines. C'est dangereux. On dit en français, tu es en roue libre. Ouais. En roue libre. Ça veut dire galgal hofshi. Quand Adam hofshi, l'homme, il est libre. Tu crois qu'il est libre? Mais il est en roue libre. Maintenant, si toi, tu descends une pente en vélo à fond, ouais, et tu pédales, mais à un moment, ça va tellement vite, tu n'arrives plus à suivre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves tes pieds. Mais c'est dangereux. Parce que s'il y a un camion qui vient au milieu maintenant, parce que le moteur, il te permet de rouler, mais il y a aussi le frein moteur. Tu peux freiner avec le moteur. Ouais. Et bien, c'est pareil. Quand la Torah, elle te dit avance avec la Torah, ça veut dire que c'est toi qui es à l'origine du mouvement. Donc, tu peux avancer, mais tu peux aussi freiner. Tu peux dire ça c'est trop, ça c'est pas le moment, ça c'est doucement, ça il faut aller, ça il faut le faire, ça il faut accélérer, tu peux le faire. Donc ça tu peux le faire parce que tu avances avec le mouvement avec lequel Dieu il a créé le monde, parce que Dieu il a créé la Torah avant de créer le monde. D'accord? Donc le moteur de la Torah, c'est ce qui permet de se déplacer, la halakha, la halikha, à l'intérieur du monde. Si toi tu veux être en roue libre, alors à l'extrême c'est anarchiste, d'accord? Et à l'autre extrême c'est consommateur. Tu n'as pas envie de réfléchir. C'est quoi, on me dit que c'est un bon produit, c'est un bon produit. D'accord? Moi, je regarde la pub, après j'achète. J'ai envie, je mange. D'accord? Tu m'énerves, je me mets en colère. D'accord? Tu me stresses, je mange. Donc, je suis toujours en réaction, toujours en réaction, toujours en réaction. Donc, moi, je ne suis pas dans une alicha. Je n'ai pas de mouvement personnel. Je n'ai pas de décision. Je n'ai pas de personnalité. Je suis vide. Comme ce bâton qui descend la rivière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâton, il va faire sa trajectoire. Il va arriver en bas de la rivière. Il va arriver. Ouais. Le problème, c'est que le bâton, quand il y a un rocher, il se plante dans le rocher, il ne bouge plus. Quand il y a une branche qui le bloque, alors que le bateau, il peut tourner à droite, il peut tourner à gauche. Ça veut dire que celui qui décide de suivre le courant, ouais, celui qui décide de suivre la société, en vérité, il a renoncé à son libre-arbitre. Au libre-arbitre. Exactement l'inverse que ce qu'ils... Eux, ils revendiquent la liberté. D'accord? Ils disent, on veut la liberté, on veut la liberté. Mais c'est l'inverse de la liberté. Regardez un peu la France, ce pays de fous. Ouais. Ils ont fait un journal, Charlie Hebdo, qui se vendait, personne ne le lisait. D'accord? Maintenant, ils en ont tué 13. D'accord? Ils ont dit, au nom de la liberté d'expression, il est venu un journal qu'ils ont vendu à 3 millions d'exemplaires. Maintenant, il a 300 000 exemplaires, ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour un journal pourri, il n'y a rien dedans, ouais, qui raconte que des bêtises. Mais comment on les a tués? Alors regarde la force, qu'en les excitant, tu les excites sur la liberté d'expression pour défendre la liberté d'expression. Mais même la liberté d'expression, elle n'a aucun sens. Ouais. Par exemple, ils ont fait rentrer, ils ont vu que la majorité des gars qui ont fait les attentats, c'est des gars qui sont rentrés. D'accord? Donc maintenant, ils sont en train de se bagarrer pour enlever la nationalité. Mais c'est complètement débile. Parce qu'il dit oui, le droit du sol, le droit de la naissance. Mais de quoi tu parles? Le gars, il te dit, il est né en France, mais il te dit je suis algérien. Alors, donc il est algérien, envoyé en Algérie. Mais maintenant, je ne parle pas, moi, du problème politique. Est-ce que c'est. Non, je parle du non-sens. C'est comment on peut être dans le délire? Comment on peut être dans le délire? D'accord? Comment on peut être dans le non-sens total? D'accord? Ils ont tué 250 000 Syriens. Et maintenant, ils sont en train de parler de 3 morts à tel endroit. Comment ils arrivent à vivre dans un non-sens? Tu sais pourquoi? Parce qu'un paquet de cornflakes ne réfléchit pas. Parce qu'une chenille n'a pas des choix. Donc quand tu as rendu les gens des consommateurs et ils deviennent eux-mêmes des produits de consommation, tu fais ce que tu veux avec. Ils sont vides, il n'y a rien. Et ça, c'est très très grave. Ça veut dire que, nous, si on réfléchit que Hachem nous a donné... des Neshamot, à nous personnellement, on a une grande responsabilité de se préserver, mais encore plus de préserver nos enfants. Parce que qu'est-ce que la société elle fabrique? C'est que si tu réfléchis, tu dis, c'est pas que le client est libre de consommer, c'est le système de distribution qui consomme les clients. Toi, tu crois que tu as une force d'achat. En vérité, c'est eux qui utilisent ta force d'achat. Bon, écoute, maintenant, qu'est-ce qu'il parle? Il parle d'enlever toutes les allocations pour donner une allocation de 1000 euros à tout le monde. D'accord? Pourquoi? Parce que l'allocation, elle va faire que les gens, ils ont de l'argent. Et avec l'argent, ils vont pouvoir consommer. Quand ils vont consommer, on va produire. Et quand on va produire, la société, elle va marcher. Pourquoi? Alors que le but, c'est de produire. Le but, c'est de consommer. Mais je croyais qu'on parlait à des êtres humains, moi. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu fais une machine qui a besoin d'essence. Donc tu dis, tant qu'il y a d'essence, il y a la machine. Mais le but, ce n'est pas la machine. Le but, c'est l'homme. Le but, c'est l'homme. Oui. Mais non, mais tu as tellement peur que l'homme y prenne conscience et qu'il devient intelligent et qu'il reconnaît qu'il y a quelque chose au-dessus de sa tête et qu'il y a un projet dans la vie, que tu l'assommes de soldes et d'argent et de location. Et de... Mais rien que l'empêche-le de réfléchir. Alors encore une fois, je donne une analyse de la société pour qu'un juif, il réagisse par rapport à ça. Mais comment il va réagir s'il n'a pas le contrepoids? S'il n'a pas les valeurs de la Torah? S'il n'a pas l'essentialité des choses? S'il n'a pas l'intériorité des choses? Ben il va dire, eh ben, et pourquoi pas? Ouais. Et c'est là que maintenant on arrive dans un choix qui est difficile. Pourquoi? Parce que c'est exactement pareil. La Torah, elle raconte que quand un homme, il va à la guerre, s'il voit une très belle femme, qu'il est attiré par elle, ouais, alors il y a une halakha qui s'appelle Isha Yefet Tohar. Ouais, une femme, Yefet Tohar, qui est belle d'aspect, et le gars, il l'a ramené, comme il a ramené du butin de la guerre, il a ramené cette femme. Alors la Torah, maintenant, elle donne des halakhot, comment il doit garder cette femme, comment il doit la laisser pousser les cheveux, et ne pas se coiffer, et laisser pousser ses ongles, et sans les dire. Ouais, et après, au bout d'un mois, que si vraiment la ta'ava, il n'est pas passé, et tout, alors il va la convertir, et il va se marier avec elle. D'accord? Pourquoi on fait des règles comme ça? Alors les commentaires, ils disent une chose incroyable. La guerre c'est quoi? Vous savez, on dit que quand il y a la guerre, il n'y a pas de loi. Oui? Tu sais, ils te parlent que les Américains, ils ont libéré la France. Mais ils ne te parlent pas des 20 ou 30 000 Françaises qui ont été violées par les Américains quand ils sont arrivés. Les soldats américains qui ont violé les femmes. Alors les femmes allemandes, des millions qui ont été violées. Mais ça, c'est pas dans l'histoire, ça ne se met pas dans les livres d'histoire. Parce que quand la guerre, l'homme, c'est un animal. C'est un chien, il tue. Enfin, quand tu vois une femme, il va faire quoi? Il va faire du kavod. Comment il passe du niveau de chien au niveau de tzadik? Il ne peut pas. Alors là, Torah a un niveau moindre. Elle a dit, quand la personne elle part en guerre, malheureusement, pour avoir la force de se battre, elle se débarrasse de ses limites et elle revient à des niveaux d'instinct. Alors il faut aménager ça. Ils appellent ça un compromis avec le Yetzer Hara. Alors c'est exactement pareil. Nous, on vit dans une société... Parce qu'on dit ce qui arrive à 100% chez les goïms, ça arrive à 50% chez les juifs. Ouais. Alors ça arrive à 10% chez les très religieux, à 50% chez les traditionnalistes et à 99% chez les juifs assimilés. Mais quand toi tu as ça qui rentre chez toi, ça veut dire qu'aujourd'hui on doit faire la guerre avec ce qu'il y a. D'accord? C'est-à-dire que même moi une fois je me suis engueulé avec un directeur d'école parce qu'on était dans une école religieuse, il y avait des profs juifs et des profs non juifs. Alors, ils nous ont envoyé des lettres comme quoi il ne faut pas avoir Internet à la maison. Moi, je vais voir le directeur, je dis, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas qu'on ait Internet, mais vos profs, ils demandent à nos enfants d'aller faire des recherches sur Internet. Maintenant, nous, on peut faire la même chose avec la bibliothèque. Comment on faisait, nous, quand on était jeunes? On allait à la bibliothèque, on prenait les livres, on écrivait, on prenait des notes, on truquait. Mais non, tu vas sur Internet, copier-coller. Copier-coller, c'est la meilleure solution pour devenir brel. Maintenant, même des écrivains, même des philosophes, même des grands rabbins, ils ont fait des copier-coller. Ouais. Mais toi, tu vas lire un livre, tu vas prendre l'idée, tu vas la synthétiser et tu vas la dire dans tes mots. Là, tu es devenu intelligent. Si tu fais copier-coller, tu vas rester brel. Jamais tu vas devenir intelligent. Maintenant, le directeur, je lui ai dit, toi, il dit, oui, mais on est payé par l'académie, alors les profs non-juifs, ils envoient les enfants sur Internet. C'est-à-dire que c'est moi à 54 ans, que c'est moi, le rave, que ma fille, elle me demande quelque chose, je lui dis, bon, donne-moi, je vais chercher les documents, je lui sors les documents, je lui donne les documents. Et elle touche pas Internet. Elle touche pas. C'est un choix. Ouais, on peut dire, ouais, ils sont grands, laisse-les tomber. Ouais. Non, c'est un choix. Après, bien sûr, évidemment, après, ça va être un compromis, c'est-à-dire de trouver, parce qu'il faut, plus tu vas rendre l'enfant responsable, et plus tu devras lui faire confiance. Parce que si tu lui fais pas confiance, du tout, ça arrive malheureusement dans des groupes très très religieux, ouais, où que tu fais aucune confiance, mais le jour où il craque vraiment. Il va sur des sites, ouais. Mais si tu lui expliques l'importance et tu mesures les choses et tu limites les choses, alors l'enfant, il va comprendre, il va dire, oh, je ne suis pas fou. Maintenant, si tu lui mets l'équivalent de l'intelligence de la Torah, quand il va regarder l'intelligence des goïms, il va dire, mais on a l'intelligence chez nous. Mais si tu lui donnes une Torah idiote, il va trouver que la science est intelligente. Si tu lui mets une Torah bidon, il va voir la philosophie. Si tu lui mets une Torah d'angoisse, il va voir la joie dans la société. Si tu lui mets un Shabbat de Rama, il va aller se déchirer à la vodka le samedi soir. Donc c'est toi qui dois lui mettre une Torah intelligente, une Torah sympathique, une Torah conviviale, un vécu de la Torah qui soit de l'amour et de l'équilibre, ouais, pour qu'il soit tellement bien, comme toi quand tu es bien dans ta maison, à 20, 22, 23, 24 degrés, et tu sors, tu fais, il fait froid. Ouais. Mais s'il fait froid à la maison et il fait chaud dehors, tu vas avoir des problèmes. Et ça, même si on donne des généralités, il faut savoir une chose, c'est que après, il faut que chaque personne, chaque famille, elle voit avec ses enfants. Parce que malheureusement, il n'y a pas de modèle. Ouais. Si tu vis dans la forêt là-bas, à 180 km de Paris, et qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de truc, c'est une chose. Mais si tu vis en plein Paris, ou tu vis en plein Milan, et que les enfants, ils ont des téléphones, et qu'il y a Internet dans toutes les chambres, alors là, tu commences avec les problèmes. Donc, premier choix, qui est le plus difficile à faire, il n'y a pas d'Internet à la maison. Il n'y a pas, zéro. Deuxième choix, il y a Internet, mais il n'est pas ouvert. Il n'y a pas un Wi-Fi que tout le monde y peut avoir. Ouais. Et si tu mets à la salle à manger. Tu mets, voilà, celui qui veut regarder, voilà, il est là, on est là. Si tu mets dans chaque chambre, ça veut dire que tu as mis la porte de Guéhinnam. Si tu mets, c'est comme si tu installes un sex shop dans chaque chambre. Parce que tous les enfants du monde, en tout cas les garçons, entre 14, 15, 16, 17, ils ont des idées. Ils ont une montée d'hormones sans hormones. Ouais. Si tu ne vas pas les accompagner pour leur expliquer la kedusha et la préservation, même les chachamim, ils appellent ça chet neorim, les fautes de la jeunesse. Tu crois de quoi qu'on parle, qu'il a volé dans un supermarché? C'est les fautes de la jeunesse. Ouais, d'accord. Et bien ces fautes-là de la jeunesse, elles se nourrissent de quoi? Des images. Maintenant, avant, c'était difficile. C'est-à-dire vraiment que genre, tu as été à la montagne et tu as vu la fille aller monter sur une escabeau. Ouais. Mais là, tu cliques dessus, tu te trouves dans des choses que... Moi, des parents, ils m'appellent, ils m'ont dit, ah ben, c'est triste, mais ma fille de 9 ans, elle sait tout. 9 ans. Elle sait tout. Elle te raconte tout. Il se passe des vidéos entre eux, ils voient des choses. Mais nous, on dit quand la Touma, elle rentre, la Torah, elle sort. Ça, c'est très, très difficile de faire rentrer de la Torah dans une tête qui a été pourrie par la saleté. Mais Rabotai, c'est pas que la Torah. Même l'intelligence, elle rentre pas. Même l'ambition, elle rentre pas. Même la finesse, elle rentre pas. Parce qu'on peut pas être dans la grossièreté, dans la finesse. Tu peux pas faire de la peinture d'art, tu peux pas faire de la copie de Léonard de Vinci avec des doigts d'éléphant. C'est très précis, c'est point par point, c'est presque pixel par pixel. C'est très précis. Tu peux pas faire de la joaillerie, je sais pas quoi, la bijouterie de précision suisse, d'accord? Un gars qui est un pizzaiolo. Ou un maçon, le gars il te prend les briques, ta, ta. Tu dis maintenant tu vas prendre une pièce qui fait un micron d'épaisseur, il faut la faire coller avec 0,03 micron. Il peut pas le gars. Tu peux pas être dans la gassoute et dans la hadinoute. Tu peux pas être dans la finesse et dans la grossièreté. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que on doit donner au maximum. Et ça c'est notre responsabilité, d'accord? C'est ce qui se passe dans notre maison, c'est notre responsabilité. Maintenant on peut pas faire une maison vide. Et après, dire pourquoi ils vont regarder ailleurs. C'est que si le réseau social, il crée un lien, toi, tu dois fabriquer un réseau social, toi. Ouais. S'il a besoin de parler 3 heures, il va aller parler avec toi. Et si tu dis, mais on n'a pas le temps, écoute, c'est plus facile de prendre du temps pour construire, ouais, que pour reconstruire. C'est comme si tu veux faire quelque chose, et tu bricoles, tu prends des Roumains, tu prends des Portugais, tu prends des Chinois, ils te créent, etc. Après, ça saute, ça pète, ça truc, après tu amènes le vrai professionnel italien, il te dit, écoutez monsieur, l'électricité n'est pas aux normes, ça c'est pas aux normes, on va tout vous remettre. Le gars dit, mais vous savez, combien vous avez payé? Il dit, ben j'ai payé 4000 euros. Eh ben c'est dommage, parce que pour faire aux normes, vous auriez payé 6000. Maintenant, ça fait 3 ans que tout a sauté. Quand il y a eu l'incendie, l'assurance ne vous a pas remboursé, donc tu as perdu 30 000. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu payer 2000. Eh ben tout c'est pareil. Tu peux faire les choses propres, ouais, tu peux faire les choses bien, tu peux faire les choses a priori. C'est-à-dire que tu prends le temps. Tu t'assois, tu parles avec l'enfant. Moi, j'en ai un certain nombre, ouais. Mais combien d'heures, combien? Après, des rabbinim, ils m'appellent quand ils ont 20 ans, quand ils ont 18 ans. Il y en a, ils m'appellent, il m'a dit, Rabbi, rien à ton fils, il m'a retourné la tête. Je dis, mon fils de 18 ans, il m'a dit, mais maturité. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais tu sais combien des milliers d'heures? Et chaque Shabbat, chaque repas, un Dvar Torah différent, pour construire la personne. Et ça, c'est la responsabilité. Et ça, c'est l'investissement. Et ça, c'est la compréhension des choses. Et ça, c'est prendre du recul. Et ça, et tu passes, et tu passes, et tu passes. C'est pas tu te déchires la gueule avec le vin, comme ça, et tu tombes. Non. Après, il y a un problème avec sa sœur. Venez vous asseoir les deux, on va parler. Après, il a grandi, viens, il faut qu'on parle. Maintenant, tu as 15 ans, 16 ans, viens, toi, tu es ma fille, viens, viens ici. Regarde, ton corps, il est formé, t'es magnifique, t'es joli. Sache que les gens, ils ont des choses. Toi aussi, tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu veux te maquiller? Est-ce que tu veux t'arranger? À quoi ça sert? Tu veux le maquillage, on te le donne. Mais c'est pour quoi faire? Pour plaire à tous les Arabes dans le train. Oui, alors tu as une beauté intérieure, tu as une beauté extérieure. Si tu saches que si tu n'es pas essentiel, tu seras superficiel. Si tu es superficiel, on va s'intéresser à ta superficie. Si c'est quelqu'un d'essentiel, on va s'intéresser à ton intériorité. Maintenant, tu veux quelqu'un qui t'épouse pour ton intériorité ou pour ta superficie? Voilà, j'ai une fille, maintenant une fille de 14 ans. Mais elle, c'est Hanina, les cheveux arrière, les petites lunettes, directrice d'école. Je l'attrape et j'écoute ma fille. Tu vois maintenant, là, tes sœurs, elles t'énervent. C'est midot que tu travailles, c'est pour ton khatan. Elle m'a dit, mais je sais, tu ne penses pas te marier. Bien sûr que tu ne penses pas te marier. Mais tu vois, quand tu montes, il monte. Quand tu montes, il monte. Quand tu montes, il monte. Ouais. Mais quand toi, tu deviens nerveuse, on t'envoie ou un très calme ou un gars encore plus nerveux que toi. Quand tu es une menteuse, on t'envoie ou quelqu'un qui ment jamais ou quelqu'un qui ment plus que toi. Donc en vérité, tu es en train de choisir ton khatan dans 6-7 ans. Mais tu es en train de le faire, le khatan, maintenant. Maintenant, tu ne penses pas au mariage, maintenant. Ouais. C'est pendant la discussion du chidour, ouais, plutôt comme ça, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il étudie la Torah? Non, c'est loin. Mais dans les midot, ça commence déjà. Donc quand tu fais ça, et tu te rends compte, en fin de compte, de tout le temps que ces nouvelles technologies, elles te prennent. Tout ce qu'elles te prennent. Parce que les gens, ils font 2 heures de téléphone par jour, 1h30 de téléphone. Ils font 1h30 d'Internet par jour. Maintenant, j'ai lu un article, il parle maintenant des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration. Parce que les gosses, ils dorment avec le téléphone à côté d'eux. Et ils ont toute la nuit, ils entendent hop, un message. Un truc, hop, hop. Mais n'importe quoi, maintenant une publicité. D'accord. Donc ils ont des problèmes de sommeil. Après, ils ont le problème des ondes. Je ne sais pas si vous avez vu cet article-là. Des étudiants suédois, ils ont fait une expérience. Des étudiants suédois non juifs. Ils ont pris des graines de cresson. Bon, des graines de légumes. Ouais. Ils les ont mis. Vous savez comment on faisait à l'école, là? Tu prends une assiette, tu mets du coton et tu mets des graines. Ils ont pris les graines. D'accord. Ils ont fait une dans une pièce où il y a la Wi-Fi, une dans les pièces où il n'y a pas de Wi-Fi. Dans la pièce où il n'y a pas de Wi-Fi, la plante, elle a poussé comme ça. Et dans la celle où il y a le Wi-Fi, elles sont pourries, noires, marron, le même temps. D'accord. Alors les jeunes, eux-mêmes, après leurs résultats, ils ont été retenus par des grands professeurs, que maintenant, ils ont dit comment ils ont choisi le cresson parce que, par rapport au développement de la plante. Ils ont compris l'influence du Wi-Fi. Ils ont compris pourquoi ils avaient mal à la tête le matin, parce qu'ils dorment à côté du téléphone. Il y en a, ils le collent sur eux. Il y en a, ils le mettent sur eux. Il y en a, ils le mettent à côté de leur lit. Ça, c'est le Wi-Fi. C'est rien que le Wi-Fi. Maintenant, ils vont pas te dire que c'est dangereux. Ils vont pas te dire qu'il y a des cancers qui viennent juste du côté où tu tiens le téléphone. Ils vont te dire, mais une oreillette, mais... C'est-à-dire qu'ils ont tellement de bénéfices dans les ventes qu'ils peuvent même pas envisager d'imaginer que... Alors, pour sortir un médicament, il faut 10 ans d'expérience. Mais pour sortir un truc dangereux, ça sort tous les jours, sous prétexte que c'est le progrès. Alors, je dis, moi, si déjà les ondes, elles empêchent de pousser la plante, ouais. Alors tu ne crois pas que la Touma, elle empêche de pousser la Neshama? Alors que tout le monde physique, il a été créé pour que tu comprennes le monde spirituel. Maintenant, nous, on se sert du monde physique comme un repère. Mais parce qu'on a un projet. Moi, j'ai un de mes garçons, il m'a dit, papa, je veux un téléphone, j'en peux plus, je suis en Israël, c'est difficile, je dois aller chez papy, je dois passer le Shabbat, je suis jeté, mes copains, ils ont tous le téléphone. J'ai dit, écoute mon fils, tu veux un téléphone? Alors, je vais t'expliquer, c'est très clair. Je vais t'acheter un téléphone, je vais te mettre un abonnement. Tu vas passer, cachère, tu vas passer 1h30 par jour à parler avec tes copains. D'accord? Maintenant, en 1h30, comme tu es très fort, tu peux faire un daf et demi de Gemara. Calcule, tous les jours, que les jours où tu téléphones. 20 jours par mois, ça te fait au moins 40 dapim. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu as déjà 400 dapim. Tu as laissé 400 pages de Gemara dans ton téléphone. À quoi? Tu es au courant? Il paraît que truc, ah ouais, ah, je sais pas. Ah ouais, mais cette voiture-là, il vaut mieux l'acheter en leasing. Ah, tiens, cette machine à laver, il paraît qu'il a sorti un nouveau costard. Il est plus cintré. Moi, j'aime bien cintré. Toi, t'aimes cintré, pas cintré, cintré. Tous les jours? Tous les jours? C'est qu'est-ce que tu lui apprends? Tu lui apprends la perte de temps. Alors je dis, mon fils, c'est très bien, c'est très simple. Regarde qu'est-ce que le téléphone va te rapporter. Que genre une fois par semaine, quand tu vas appeler ta grand-mère pour aller passer Shabbat à Netanya, tu peux le faire. Et regarde qu'est-ce qui va te coûter, une heure et demie de perte par jour. À part la perte de temps, à part que tu apprends à perdre de temps, tu fais un chinouch à la perte de temps. Il m'a dit, ok papa, je ne prends pas le téléphone. Vous avez compris? Mais c'est lui. Mais il faut que ça vienne, c'est-à-dire qu'on impose et on explique. Mais à un moment, il faut que la personne, elle comprenne. Mais si elle rentre dans la hantise, moi, qu'est-ce que j'ai eu à la fin d'un cours, un samedi soir à Paris? Des parents, ils sont venus avec leur fille. La fille, elle a dit, moi, je veux le téléphone. T'es en train de se bagarrer. C'est ce qu'elle a dit? Je dis, mais écoute, tes parents, ils ne veulent pas. Maintenant, c'est tes parents. Elle m'a dit, non, moi, mes parents, mes copines avant mes parents. Je dis, vous n'avez pas un problème de téléphone? C'est pas un problème de téléphone. C'est un problème qu'il n'y a pas de famille. Parce que si les copines, elles sont plus importantes que les parents, c'est quoi? C'est les parents, c'est quoi? C'est une cafetière? C'est une marmite pour manger? C'est un frigidaire, tu ouvres, il y a à manger. Maman, j'ai faim, tiens. Maman, lave-moi le linge, tiens. Papa, il me faut 50 euros, tiens. Alors le père, c'est une machine à sous et la mère, c'est une cuisinière. Donc ça veut dire qu'il faut recalculer entièrement le rapport qu'on a avec les enfants, qui sont tellement bien, sont tellement épanouis, sont tellement bien avec leur papa et leur maman, parce que c'est tellement important d'avoir des parents. C'est tellement important. Oui, moi j'ai perdu mon père. Tous les jours, je pense à lui. Pourtant, ce n'était pas un papa qui exprimait. C'était pas, jamais il m'a dit je t'aime. Il ne savait pas faire ça. Ce n'était pas leur génération. Mais on avait un père, on avait une mère. Ouais. Alors toi, tu as la chance d'avoir des parents vivants et tu vas sur ton téléphone. Mais tu es malade. Tu vas sur ton chat de 3 heures de Facebook pour rien. Maintenant, c'est les gens avec qui tu as passé toute la journée. Tu repasses encore une heure et demie avec eux sur l'Internet. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, mais encore une fois, parce que tu vois pas ce que tu perds. Ouais. Et même si tu t'entêtes et tu dis je le veux, tu dois réfléchir, mais pourquoi tu te mets dans un état pareil? Bah, imagine, je peux pas, voilà. Maintenant, je dis, tu sais quoi, chérie, je vais t'acheter le téléphone, mais je vais me couper un bras. Je me coupe la main et je te donne un téléphone. Tu veux ou non? Tu vas dire non, faut pas exagérer. Mais au lieu de me couper la main, je me coupe de la neshama de ma fille et je me coupe de la neshama de mon garçon. Je vais perdre. C'est pire que. Je préfère donner un bras que de donner des choses pareilles. Il dit, mais quand la personne, elle prend dans cette logique-là de dire qu'elle est, elle veut construire, c'est ça, un bait néhémat, ça veut dire elle veut dans cette maison-là qu'il y ait de la Torah, qu'il y ait la présence à Kadosh Baruch Hu, et automatiquement qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la communication, qu'il y ait de la maturité, qu'il y ait de l'intelligence, qu'il y ait de la finesse, parce que c'est ça le bet qui boule. Parce que sachez que c'est les bonnes midot qui permettent de faire le mitzvot. Et c'est les mauvaises midot qui amènent au averot. Donc tu termineras jamais entre est-ce que c'est bien de donner à l'enfant les mitzvot et accompagner des bonnes midot, ou est-ce qu'il faut lui donner les bonnes midot qui vont lui donner les mitzvot. Maintenant, à la yeshiva, il va apprendre les halachot, ouais, mais à la maison, il doit apprendre les midot. Ouais. S'il n'a pas appris à Avat Torah, s'il n'a pas appris l'honnêteté, s'il n'a pas appris le sérieux, s'il n'a pas appris à se remettre en cause, à travailler avec ses frères, à réfléchir, à être solidaire de la famille. Mais alors, à quoi ça a servi qu'il ait une famille? C'est pas la peine. Là, on peut le mettre depuis le GAN dans un internat, et il va devenir un bon soldat russe, un soldat de la Torah. On veut pas. On veut des hommes, on veut des gens normaux, on veut des gens qui soient équilibrés, qui soient construits. Il dit ça veut dire que quelqu'un, il doit, encore une fois, il doit regarder qu'est-ce que les nouvelles technologies, elles apportent et qu'est-ce qu'elles coûtent. Maintenant, s'il n'a pas les yeux bien ouverts sur ce qu'elles coûtent, il est déjà en danger. Parce qu'il ne voit même pas où est le problème. Par contre, il faut savoir. Parce que quand il y a un progrès qui arrive dans la société, il faut savoir est-ce que ce progrès c'est un progrès ou est-ce que ce progrès c'est une dégénérescence. Bézat Hachem, qu'Hachem nous aide à faire des bons choix et à recevoir la Shekhinah dans nos maisons. Maintenant, je suis obligé de partir parce que pour ne pas rater l'avion. Bonne continuation. La prochaine date, 21 février. On espère. Non, pas mal fait ça. Ninate. Hazak Obarour. Alors, j'enverrai le cours à Madame Saada, la personne qui veut réécouter. Ça va, toi?
Oui, ma mère aussi.
Merci à vous. Que du